rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune dans la 3.8 MHz, Onde Femme Radio Zone. Dans quelques instants, les nouvelles suivies du canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune. Marjolaine qui, ça y est, j'ai oublié la rime, c'était quoi?
C'était Marjolaine, quittez vos bas de laine, ne cessez de prendre de la peine avec le mémento de Marjolaine.
Voilà, beaucoup de rendez-vous, il y a énormément de choses qui vont se passer à Genève ces prochains jours. Alors, dans quelques instants les nouvelles. Radio Pleine Lune dans la 3.8 MHz, Onde Femme Radio Zone, nos nouvelles. Au sommet de Rio, les femmes auront tenu le crachoir de bout en bout, aussi bien à la conférence elle-même qu'au Forum Global, la manifestation parallèle des peuples du monde. Le président, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, et autres espèces en danger. Cette entrée en matière de la très new-yorkaise féministe Bella Abzug devait, devant l'assemblée plénière de la conférence sur l'environnement et le développement, a donné le ton. De tous les acteurs sociaux qui composent le large éventail du forum, les femmes sont celles qui ont fourni leur contribution la plus écoutée et la plus ambitieuse. Avant même que Rio ne s'ouvre, leur motion figurait en bonne place dans le programme pour le 21e siècle, l'agenda 21, en voie d'adoption par les gouvernements. Parmi tous les acteurs, religions, écologistes, défenseurs des droits de l'homme, internationalistes et pacifistes, peuples indigènes et minorités, fabricants des technologies pour le tiers-monde, les femmes sont arrivées en tête du classement pour la combinaison des deux critères, l'unité de leur mouvement et la nature globale de leurs propos. Les femmes vont donc sauver le monde, comme le précise volontiers Bella Abzug. Rosiska, parallèlement, se tenait également le forum La Planète des Femmes, organisé principalement par la brésilienne Rosiska Darcy de Oliveira, que nous connaissons bien aussi à Genève. Pour elle, ça a été un moment magnifique car, dit-elle, ce qui a compté, c'est l'espace de discussion et de réflexion qui a été ouvert. La diversité des points de vue et le sceau de leur authenticité. Ceux qui prétendent détenir aujourd'hui une vérité unique sur le monde, gouvernement ou organisation non gouvernementale, se ridiculisent. Ce que nous avons apporté de plus fort, estime Rosiska, c'est une relecture des problèmes sociaux hors du prisme exclusif de l'économie. Qu'il s'agisse de déficit de la vie affective et sociale dans les pays développés ou de l'éclatement des structures sociales dans des pays comme le Brésil, les femmes, celles du Sud en tête, sont en train de réaffirmer l'importance des services et des valeurs non matérielles. Le féminisme change d'époque, mais aussi l'appréhension des grands problèmes du monde. La planète femme a déposé en fin d'exercice une dizaine de traités ouverts à la signature des ONG du monde et qui portent ce regard féminin sur des questions aussi diverses que la population, la pauvreté, la conservation de l'environnement, l'éducation, la consommation, les transnationales, ainsi que les communications et le problème du militarisme. La population et le contrôle des naissances furent aussi les sujets, bien sûr, traités de façon centrale. Les femmes se sont défendues à la fois contre deux adversaires, l'un soutenu principalement dans les réunions préparatoires de la conférence par le Vatican, qui veut restreindre au maximum l'accès aux moyens anticonceptionnels et bien sûr interdire l'avortement, mais l'autre cherche à barrer aux femmes le choix d'avoir des enfants. Au Brésil, une campagne de stérilisation a été menée systématiquement jusqu'au début de la décennie précédente. Elle est actuellement sous enquête parlementaire. Une autre leader du mouvement, Peggy Antrobus, pense que le sommet de Rio n'effectuera pas de transformation en profondeur du système humain tel qu'il est aujourd'hui mené à sa perte par le principe dominant du marché, dit-elle. Cependant, pour elle, la réunion de ces organisations non gouvernementales a représenté une mobilisation sans précédent de la société civile à l'échelle mondiale et aussi au Brésil. Les femmes y ont joué un rôle de ferment civilisateur. Il est impossible que cela reste sans lendemain. Elles en sont convaincues. De Bonn à Rio via Dublin, la question de l'avortement est toujours à l'ordre du jour. Le Brandebourg s'est donné une constitution favorable à la liberté des femmes. Bonn doit adopter une nouvelle loi plus libérale. Le vote de l'Irlande sur Maastricht sera aussi conditionné par cette question. Avant-hier en Allemagne, jeudi en Irlande, tous les jours en Pologne, aux États-Unis, l'avortement est plus que jamais d'actualité. À l'origine de ces débats très durs, la position de l'Église, bien sûr, où Jean-Paul II tente d'imposer ses conceptions intransigeantes sur le refus du contrôle de naissance et de l'avortement. Le sommet de la Terre, qui vient de se conclure à Rio, n'a pas osé, pour cause de pression, aborder cette question de la croissance démographique. Aux États-Unis, cependant, où l'avortement et la contraception font traditionnellement partie des enjeux électoraux, un sondage a montré que seuls 14% des catholiques américains suivent les consignes de l'Église en ce domaine et qu'ils sont presque 80% à penser que ces problèmes relèvent de leur propre conscience. En Allemagne, la ratification triomphale de la nouvelle constitution du Land de Brandebourg représente une défaite sanglante pour le parti du chancelier Kohl qui demandait son rejet, surtout en raison de ses clauses fort libérales sur l'avortement. Cette approbation met le chancelier dans une position très délicate. Le Parlement allemand doit se prononcer dans les jours qui viennent sur une nouvelle loi concernant l'avortement. La présidente du Bundestag, Rita Süssmuth, présente une loi beaucoup plus libérale que celle qui est actuellement en vigueur. Ce projet risque fort de passer au grand dam de la hiérarchie catholique qui lui tire dessus à boulets rouges. Ainsi, l'archevêque de la Hesse se permettait de dénoncer la semaine dernière, je cite, « un mode de pensée national-socialiste justifiant la liquidation de milliers d'innocents ». Fin de citation. En Irlande aussi, la question de la ratification de la réunification vers l'Europe et de la ratification de l'accord de Maastricht passe principalement par la question de l'avortement, puisque l'accord est ratifié, l'avortement devrait être autorisé en Irlande, alors qu'on a introduit une clause spécifiant que l'Irlande pourrait, sur cette question, ne pas suivre les principes européens. Les Polonaises, elles, n'ont pas les mêmes perspectives. Alors que la loi les autorise à avorter, il leur est impossible de trouver un médecin qui le fasse, puisque l'Ordre des médecins a pris la liberté, si on peut dire, d'exclure tout médecin qui pratiquerait l'avortement. Toujours sur cette question de l'avortement, je vous annonce que se tiendra à Genève en septembre une conférence européenne sur ce thème, l'avortement et la contraception. Elle est organisée par le réseau européen pour le droit des femmes à l'avortement et à la contraception. Ça s'appelle « La réalité et nos exigences ». « En Yougoslavie, les femmes disparaissent de la vie publique. Pendant qu'en Suisse, les esprits politiques s'échauffent au sujet des avantages et inconvénients de l'intégration européenne, on assiste dans la ci-devant Yougoslavie à une désintégration géographique, historique et culturelle non moins européenne et qui se manifeste avec une brutalité inouïe. La guerre dans l'ancienne Yougoslavie est un conflit européen, a déclaré Vlasta Jalusic, originaire de la Slovénie, lors d'un récent passage à Bâle. Elle estime que l'attirance vers l'Europe, la question de savoir qui, après la disparition de la fraternité imposée d'en haut à cet État multiracial, fera partie du Nord et où commencera le Sud, sont des éléments du conflit auxquels on attache souvent pas assez d'importance. L'augmentation du flux des réfugiés fait apparaître le problème Sud-Nord dans toute sa force, au flanc même de la forteresse européenne. Mais l'Europe est aussi considérée comme le modèle qui inspire aux pères des futures constitutions leur conception de la démocratie, ce qui revêt une grande importance dans la perspective de l'égalité des femmes. On a laissé passer, dit-elle, l'occasion de parvenir à une nouvelle conception de la démocratie et des droits de l'homme. Actuellement, la législation sociale qui, dans la Yougoslavie communiste, compensait en partie la mauvaise situation des femmes est en voie de disparition, alors que leur émancipation politique, déjà peu avancée, est encore entravée par la priorité donnée à l'autodétermination nationale. C'est ainsi, par exemple, que le droit des femmes à choisir en matière de contrôle de naissance doit s'effacer devant leur, je cite, « devoir patriotique » d'enfanter. Toutefois, en Slovénie, le 10 décembre de l'année dernière, une grande manifestation de femmes a permis d'empêcher que l'on abolisse ce droit à l'avortement. Dans les républiques les plus touchées par la guerre, les chances de l'égalité politique des femmes sont encore plus défavorables. En Croatie comme en Serbie, on prône ouvertement l'obligation d'enfanter. Toute revendication des droits politiques non nationaux est considérée antipatriotique et les femmes ont pratiquement disparu de la vie publique. Les conceptions de la démocratie, des droits de l'homme, de l'économie de marché et les images de l'Europe assimilées par les nouveaux États nationaux rattachent notre débat sur l'Europe au débat sur la Yougoslavie. L'avenir des femmes dans ces pays ne sera pas déterminé par l'aide financière de la communauté européenne, ni lors de conférences de paix où seuls les hommes sont présents, mais il dépendra de notre engagement en faveur des droits politiques et sociaux de la personne humaine et d'une démocratie où hommes et femmes participent à la réalisation de la société. Aux États-Unis, en Californie, la première ville à être dirigée uniquement par les femmes. 5 californiennes d'une petite ville tranquille sur le Pacifique entrent dans l'histoire. De la ville de Pacifica, petite ville côtière au sud de San Francisco, où va donc siéger le nouvel conseil de ville, un exécutif à 5 têtes. Pour la première fois aux États-Unis, il n'y aura que des femmes à la barre. Pacifica n'est pas particulièrement féministe. Pourtant, cette ville a élu en 1957 déjà une femme à la mairie, alors qu'à Genève, on essayait de se battre pour le droit de vote sur les questions cantonales. Et depuis, il y a toujours eu quelques femmes dans toutes les instances politiques. En France, histoire terrible autour d'une fillette tunisienne qui était utilisée comme esclave par un couple français. Samia, 13 ans et demi, vivant en Tunisie, avait été ramenée clandestinement en France en septembre dernier par une amie de ses parents. Les parents touchaient une somme d'environ 500 francs français par mois pour cette petite fille qui effectuait les tâches ménagères, mais en plus, elle subissait des violences physiques de sa patronne qui l'obligeait entre autres à manger de la nourriture pour chien mélangée à de l'eau de Javel et à boire son urine. Alertée par une voisine, la police a trouvé l'adolescente dans un état lamentable. Son corps était couvert de traces de coups, de morsures, de bleus. Elle souffrait également de fractures au bras et au nez causées par des coups de bâton. Elle a dû être hospitalisée. Interrogée, le mari a affirmé aux policiers qu'il avait gardé le silence car sa femme le terrorisait également. Toujours en France, à Tours, quelques 250 manifestants appartenant à des associations d'homosexuels, de lutte contre le sida, antiracistes et de partis d'extrême gauche ont défilé samedi après-midi pour protester contre l'ordre moral après le refus de location d'une salle pour une soirée homosexuelle. Une association s'était vue interdire la location d'une salle par les gestionnaires du parc des expositions de Tours pour une soirée dont les profits devaient notamment servir à financer la lutte contre le sida. Nicole Gautrat, adjointe au maire de Tours, avait motivé ce refus en expliquant, je cite, que l'homosexualité n'est pas dans la nature de l'homme. Les naissances hors mariage sont toujours en progression. Est-ce que ça, c'est dans la nature de l'homme? En tout cas, les chiffres le prouvent. La progression des naissances hors mariage a été générale l'année dernière dans toute l'Europe. Le record est détenu par les pays du Nord, où près d'un enfant sur deux naît de parents non mariés. La Suisse suit très très derrière avec 6% des cas. En Islande, l'Islande arrive en tête avec des naissances hors mariage. Suivent la Suède et le Danemark, donc plus d'une naissance sur deux. En France, c'est une naissance sur trois, 15% en Angleterre et en Allemagne, et puis tout à la fin, la Suisse et l'Italie. Mais dans ces pays aussi, le nombre de naissances hors mariage a doublé en 30 ans. En Suisse, vous vous souvenez, il y a une année, la Suisse, les rues étaient roses. C'était le 14 juin 1991, la grève générale des femmes, jour J, ou plutôt F. La Suisse féminine s'était drapée de fuchsia, éclatante. Presque un demi-million de femmes qui avaient participé à cette grève, manifestations, débrayages, pique-niques, habits roses, discussions. Chacune à sa façon, chacune dans la mesure de ses moyens. Qu'elles soient syndicalistes, politiciennes, ouvrières, employées ou femmes au foyer, tout cela avait été un succès extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en est resté une année après? Pour la conseillère nationale Christiane Brunner, la grève a déclenché pour nombre d'entre nous, dit-elle, une discussion sur le rôle de la femme dans notre société. Le fait que les femmes se soient mobilisées publiquement a donné une nouvelle dimension au mouvement féministe. Pour la première fois, il lançait une action de masse, ce qui a engendré une solidarité, une force insoupçonnée. La grève a provoqué une prise de conscience fondamentale. Ailleurs, le bilan est en demi-teinte. Après la grève, dans de nombreux endroits, des femmes, bien sûr, se sont regroupées. Elles ont compris qu'elles étaient capables de se mobiliser et elles ont protesté. Ainsi, à Genève, une mobilisation s'est organisée alors que le bureau de l'égalité entre hommes et femmes était menacé. Ailleurs, des groupes se sont fixés des objectifs précis, créer des crèches, par exemple. Des interventions ont été déposées auprès des autorités. Ce n'est pas négligeable. De nombreuses femmes se sont présentées aussi aux élections fédérales et cantonales et ça a été payant. Au chapitre des succès, il faut aussi noter le projet de loi fédérale sur l'égalité qui est en bonne voie. Son objet, donc, l'interdiction absolue d'une inégalité salariale pour un même travail. D'autres progrès ont été enregistrés. La mise en place d'un système de quotas pour que les femmes soient mieux représentées dans les commissions fédérales. Et puis, bien sûr, le bonus éducatif accordé aux femmes divorcées dans la 10e révision de l'AVS. Bien sûr, continue Christiane Brunner, il faudrait être naïf pour croire que tout a changé. Nous sommes encore loin de l'égalité juridique, du salaire égal pour un travail égal et de la reconnaissance du travail non rémunéré fourni par les femmes. Et puis, bien sûr, à cause de la crise, la situation des femmes s'est détériorée, les chiffres le prouvent. Les femmes sont davantage touchées par le chômage et par la nouvelle pauvreté. Cependant, cette journée a donc été marquée un peu partout par des actions et entre autres à Berne, les femmes du Conseil national sont parties à la défense des oubliés de l'histoire et du pouvoir en présentant un programme utopique très rafraîchissant. C'était la semaine dernière, c'était mercredi dernier à Berne où la mode féminine était au rose fuchsia dans le Conseil national. Une façon de commémorer la grève des femmes du 14 juin et de tourner en dérision le débat sur les avions de guerre, les F-18. Les femmes, principalement les élus socialistes et écologistes, ont en effet d'autres priorités que le nouvel avion de combat. Elles l'ont prouvé en présentant hier un programme de législature alternatif placé sous le signe de l'utopie et mis en scène par l'Association des femmes de théâtre. Le théâtre aurait dû jouer à l'intérieur du Conseil national, mais elles ont été refusées et c'est sur l'escalier à l'extérieur qu'elles ont présenté de façon très originale ce nouveau programme sur la législature. Ce programme des femmes du Conseil national tranche singulièrement avec l'austère document officiel. C'est un programme, je cite, de minorité pour la majorité oubliée. Il se veut avant tout ironique et provoquant. Petit voyage au pays de l'utopie, les valeurs de la société seraient fondées sur la reconnaissance et la valeur de l'autre, sur les possibilités d'épanouissement personnel, l'intuition, la force de la douceur, l'humour, la sérénité, ainsi que l'entraide et l'altruisme. Au programme, un rapport naturel à la nature, le dialogue entre les générations, le temps de vivre et des remèdes de bonne femme. Pour exécuter ce programme, on aurait un gouvernement constitué de 14 femmes qui exerceraient leur mandat à mi-temps, un parlement se composant à part égale de femmes et d'hommes et un conseil constitutionnel de 7 sages-femmes qui veilleraient à l'enfantement et à l'application des lois dans l'intérêt général. À la place de l'espace économique européen, il y aurait un espace féminin européen. La libre circulation des personnes deviendrait la possibilité pour les femmes de se déplacer partout à l'abri des agressions et des violences sexistes. La libre circulation des services rendus à la société remplacerait celle des services bancaires. La libre circulation des biens serait synonyme de protection des enfants, ces derniers étant considérés comme les biens les plus précieux dans l'Europe des femmes. Enfin, les capitaux seraient remplacés par la libre circulation des pensées et des cultures. Toujours pour Christiane Brunner, qui faisait le bilan de la grève des femmes un an après, elle estime qu'un grand pas a été fait. Nous sommes encore loin, bien sûr, de l'égalité juridique, mais notre objectif, c'est une société donnant à tous les êtres humains, sans distinction d'âge et de sexe, les mêmes possibilités d'épanouissement, le même droit de décision et les mêmes devoirs de partager les tâches qui sont désormais reconnues. Et puis, une idée pour l'année prochaine, ce ne sera pas une grève des femmes, ce sera une fête des mères tout à fait spécial. Un nouveau look pour la fête des mères 1993. Car, disent les femmes des collectifs du 14 juin, on ne veut pas créer de traditions lourdes et conservatrices. Les femmes ont un potentiel de créativité. C'est donc une grande action du type de celle de l'an dernier qui consacrerait la fête des mères à la protection de la maternité. Au lieu d'offrir des petits cœurs aux mamans, on pourrait leur offrir des bons pour des congés. On pourrait même en envoyer au Conseil fédéral. Dernier petit clin d'œil au 14 juin, le mensuel socialiste genevois Débat a consacré tout son numéro de ce mois-ci aux femmes. C'est tout écrit par des femmes, c'est que des articles sur des femmes, c'est très intéressant. C'est pour rappeler justement le 14 juin. Et puis aussi un autre événement ce 14 juin, c'était en Argovie, la première Landsgemeinde féminine qui s'est ouverte à Seingen. C'est une manifestation qui a pris fin dimanche, a accueilli quelques 100 représentantes de 23 organisations féminines. Les participantes exigent notamment la création immédiate d'un bureau de l'égalité dans le canton d'Argovie et l'amélioration de la situation des femmes. À Genève, vous savez que le 21 juin, on votera pour savoir si oui ou non on va augmenter les impôts. Ça a l'air un peu brutal de dire comme ça, mais cette augmentation des impôts sert en fait à maintenir une politique sociale et des prestations suffisantes de la part de l'État. Alors, il y a toute une série d'organisations qui ont pris position pour un oui à ce paquet financier. Il s'agit entre autres de l'Association de défense des chômeurs, des transports et de l'environnement, des vieillards invalides, veuves et orphelins, le Forum Santé, le Rassemblement pour une politique sociale du logement. ainsi que les associations du personnel de la police, les syndicats comme le CIT, le syndicat chrétien et l'association suisse des infirmières, ainsi que la fédération suisse des travailleurs du secteur public et semi-public. Par contre, la prise de position officielle de l'extrême droite vigilante contre, pour dire non à ce paquet financier, a dû être mise à la poubelle parce que des signatures avaient été falsifiées sur cette liste. Sur la rubrique du musée des horreurs, plusieurs condamnations pour des violeurs. Ainsi, à Genève, un père a été condamné. Il avait enlevé son fils pendant 6 mois, attenté à la pudeur de sa belle-fille ainsi que de l'ami de sa belle-fille qui avait 11 ans. Lui, il a été condamné à 2 ans par défaut parce que, bien sûr, monsieur était rentré tranquillement dans son pays depuis longtemps. Autre histoire, un pervers condamné à Genève, 3 ans de prison pour un éducateur qui s'était livré à des attentats à la pudeur sur 2 adolescents. Ce Valaisan de 48 ans avait été reconnu coupable de 5 attentats à la pudeur commis sur 2 jeunes filles qui lui avaient été confiées. Âgées de moins de 16 ans au moment des faits, les 2 jeunes filles ont été entendues par les juges. Le condamné a comparu libre à son procès. Il avait été remis en liberté provisoire après 22 jours de détention préventive. Ça, c'est vraiment beaucoup. Autre histoire, un jury sans tête face au tribunal fédéral. Il s'agit aussi d'un violeur qui avait été condamné pour avait été reconnu coupable de 3 viols commis contre des femmes qui quittaient le dernier bus de nuit dans la campagne genevoise. 2 des victimes l'avaient formellement reconnu. Et il avait été donc condamné pour ces 3 viols à 15 ans de prison. Il avait fait recours au tribunal fédéral qui avait estimé que c'était trop et qu'en plus le 3e viol n'ayant pas pu être prouvé, il aurait dû être acquitté pour ce dernier point. Rejugé par la nouvelle cour d'assises qui devait éventuellement prononcer l'acquittement pour ce 3e vol, et fixé pour les 2 agressions une nouvelle peine moins forte. Mais les jurés ont passé outre. Le violeur a été condamné à une peine de 12 ans de réclusion. Et pour terminer, je ne sais pas très bien comment appeler cette rubrique, si ce n'est la rubrique de la connerie. Alors, ça vient des États-Unis et de Bush en personne. Les États-Unis ont décidé, la Cour suprême des États-Unis a décidé qu'ils pourraient enlever des malfaiteurs à l'étranger, malfaiteurs de n'importe quelle nationalité, s'ils avaient commis un crime contre des Américains. Alors, la liberté, la dépendance nationale, les États-Unis s'en foutent. Alors, la déclaration, la plus conne du mois, c'est M. Bush qui l'a prononcé. Il en a prononcé pas mal, mais celle-là, elle est géniale. Vous savez qu'il s'est rendu à Panama, il faut le faire, qu'il a fait un discours bien arrosé par des gaz lacrymogènes, qu'il n'a même pas pu finir de parler parce que les gaz lui sont retournés dessus et qu'il s'est mis à chialer comme une madeleine. Eh bien, ce monsieur se félicite de son séjour à Panama et il n'en a pas moins remercié la population locale pour, je cite, « son accueil chaleureux ». Waouh ! Et il se promet de lui renouveler sa visite. Eh bien, il sera bienvenue. Et il a terminé en disant « Panama est un pays libre, démocratique, j'étais très fière d'y être, j'aimerais y retourner. » Eh bien, les gaz lacrymogènes l'y attendent encore la prochaine fois. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, dans quelques instants, canicule.
Lolo.